Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Vous écoutez Radion, il est 11h passé de quelques secondes. Un très grand bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir dans Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Aujourd'hui, nous allons, à travers des extraits d'enregistrements réalisés le 2 août dernier, vous rendre compte de la déambulation littéraire organisée à Vézelay dans le cadre du festival Nature en Livre, un cercle éco-poétique en pays nivernais. C'est un festival organisé par les bénévoles de l'association Hostellerie de la Tour, association qui compte 90 adhérents et qui a été créée et qui est animée par Gertrude Dodard avec l'appui d'un comité littéraire. Ce festival, c'est sa 5e année d'existence. Alors il est vrai qu'historiquement, ce festival se déroulait dans le département de la Nièvre, au bord de Lyon et aux confins du Morvan. Une centaine d'auteurs ont été programmés, des ateliers ont été organisés pour des personnes éloignées de la culture, sans oublier que ces rendez-vous littéraires et artistiques ont pour but de diffuser la littérature de manière conviviale, en s'adressant à un vaste public, avec, très important, la valorisation de la nature. Le 2 août dernier, Gertrude Dodard et le festival Nature en Livre ont organisé une déambulation littéraire au départ de la chapelle de la Cordelle à Vézelay, en passant par la maison Jules Roy, les jardins de la maison Jules Roy, le cimetière de Vézelay où reposent des romanciers, des essayistes et des figures de la littérature française, pour ensuite revenir à la basilique Sainte-Marie-Madeleine où l'académicien Michel Zin était venu en tant que grand médiéviste nous apporter ses lumières sur la sculpture du narthex et également sur la symbolique des piliers de la basilique Sainte-Marie-Madeleine. Et puis le festival s'est arrêté à la mairie de Vézelay avec des lectures et un concert de harpe. Mais nous vous en dirons un petit peu plus la semaine prochaine, samedi 20 septembre, toujours dans Wagon Livre, où vous pourrez entendre l'académicien Michel Zinc. Tout de suite, on ouvre ce compte-rendu de cette belle journée du début août du festival Nature en Livre à Vézelay. Je vous propose d'entendre Nicolas Descaves, venu de Saône-et-Loire. Nicolas Descaves, trentenaire passionné de botanique et qui a décidé de partir pour Saint-Jacques-de-Compostelle en se nourrissant des plantes trouvées en chemin. Nicolas Descaves.
Donc il y a 2 ans, voilà, j'ai fait, comme énormément de personnes que vous allez croiser ici, le chemin de Compostelle. Or, ben, moi je suis botaniste et forcément le chemin de Compostelle, il passe par mes yeux, il passe du coup par tout un tas d'autres rencontres qui ne sont pas forcément que les rencontres humaines. Donc j'ai fait un récit où finalement il y a les rencontres humaines et les rencontres végétales. Parce que voilà, selon chaque personne en fait qu'on va rencontrer va nous faire un petit peu avancer. Enfin, moi ça a été mon cas, les personnes que j'ai rencontrées sur le chemin m'ont fait avancer sur mon chemin personnel. Et bien les plantes rencontrées m'ont aussi parfois fait avancer sur mon chemin personnel. Par les histoires qu'elles véhiculent, par leur forme, leur dynamique de vie, etc., ben finalement, elles m'inspirent. Et puis, elles m'accompagnent. Alors, au départ, je suis parti au mois d'avril. Donc, avril et mai, quand on connaît les plantes et qu'on connaît leur goût, alors c'est un moment de l'année qu'on n'a pas envie de louper, parce que voilà, il y a des goûts de plantes qu'on peut manger, qu'on ne va pas pouvoir retrouver le reste de l'année, et qu'on ne va pas pouvoir retrouver surtout dans tous les aliments qu'on va pouvoir acheter, cultiver, etc. Donc les 2 premières semaines, je mange quasiment que des plantes sauvages. Voilà, j'avais cette phrase qui était « se nourrir du chemin ». Se nourrir du chemin, cette phrase, elle revenait assez souvent. Donc les 2 premières semaines, voilà, je me nourris du chemin, j'ai pris la lettre au pied. Et donc voilà, les deux premières semaines, je mange quasiment que des plantes sauvages. Et puis après, ben, c'est autre chose qu'elles viennent nourrir, comme je vous disais, c'était les pensées. Etc.
Déambulation littéraire du festival Nature en Livre à Vézelay, comme si vous y étiez. C'était le 2 août 2025, avec notre ami Didier Carco qui tenait le micro pour enregistrer les sons que vous pouvez entendre actuellement dans le Wagon Livre sur Radio. Je vous propose tout de suite d'entendre à nouveau Nicolas Descaves, auteur du Le chemin des plantes aux éditions Transboréales. Cette fois-ci, il nous parle du plantain.
Le grand plantain, c'est la plante du chemin parce qu'il passe, il pousse sur les endroits qui sont tassés. Et dès que c'est un peu moins tassé, on est plutôt en mode prairie. Là, on a le plantain lancéolé. Alors là, c'est une plante qui peut vous sauver la vie, n'importe quel plantain sauvage de France, parce que c'est la meilleure plante antihistaminique d'Europe et anti-inflammation. Ouais, je vous le dis parce que ça a sauvé la vie d'un ami qui est allergique aux guêpes. Un jour, il gobe une guêpe, qu'il le pique au fond de la gorge et tout de suite il se met à gonfler. Donc il dit voilà, c'est cuit, je vais y passer. Et puis là il voit du plantain et c'est un botaniste aussi. Il connaissait l'histoire mais il ne l'avait jamais utilisé, donc il s'est jeté sur le plantain, il a mâché comme il pouvait, mais ça a dégonflé juste assez pour qu'il puisse respirer. Donc là il a pris tout le plantain qu'il a vu autour de lui, il a mâché sans s'arrêter jusqu'à aller à sa voiture et aller aux urgences où là ils lui ont fait une piqûre pour prendre le relais. Voilà. Et justement, sur le chemin, donc les deux premières semaines, ouais, comme je vous disais, je mangeais énormément de plantes et notamment du plantain. À petite dose parce que déjà il pousse pas forcément dans les endroits toujours sains et puis parce qu'il a des grosses nervures. Si vous regardez ça là, il a vraiment des grosses nervures quand même. Donc les fibres c'est bien, mais quand vous mangez que des plantes, au bout d'un moment les fibres vous en avez vite votre dose. Alors ce que je faisais, c'est que je prenais surtout l'extrémité. Hop, donc je vous montre. Alors je faisais pas ça à chaque fois, mais voilà. En prenant l'extrémité qui est beaucoup plus souple, donc plus agréable à la bouche. Eh bien voilà, je mangeais, ça faisait un petit peu mon hostie végétale parce que je m'étais rendu compte que ça me rendait moins allergique au monde, aux rencontres, etc. Par exemple, entre ici et le Puy-en-Velay, ou entre chez moi et le Puy-en-Velay, mais là il n'y a qu'une semaine de marche, eh bien vous n'avez pas croisé grand monde. Enfin, en tout cas, moi j'ai pas croisé grand monde. Et donc, on est tranquille, tout ça. Puis après, on vous dit, à partir du Puy-en-Velay, vous allez être des centaines de pèlerins qui vont s'élancer. Et puis sur l'Aubrac, vous ne pourrez jamais avoir de gîte. Et puis, il va pleuvoir tout le temps sur l'Aubrac, il va geler, etc. Alors là, vous avez déjà une inflammation de la tête, alors qu'en vérité, tout va bien. Les rencontres, elles sont super. Dans le livre, il y a mes salades, qui sont des grandes listes de noms latins. Alors, c'est plus fait pour rigoler dans le livre qu'autre chose. Hein. Mais c'est vraiment les listes de plantes que je mangeais. Alors, soit je les cueillais petit à petit, soit je m'arrêtais à un endroit parce qu'il y avait telle ou telle plante en assez grande quantité pour que je puisse l'accueillir sans impacter le lieu. Enfin voilà, ça dépendait. Mais pour revenir sur le plantain, voilà, finalement, il me rendait plus ouvert aux rencontres, etc. Et ce qui était un petit peu un des enseignements qu'on va vraiment avoir au fond de nous une fois qu'on a fait tout le chemin. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Une fois avoir terminé le chemin, j'étais beaucoup plus ouvert aux rencontres, beaucoup moins de peur de l'avenir, etc. Alors, le plantain, finalement, c'était un petit raccourci qui nous a indiqué ça depuis le début, justement, et on l'avait sous nos pieds depuis le début. Mais bon, je pense qu'on sait, en tout cas, c'était mon cas, avant de partir, que la réponse, on l'a déjà ici, à nos pieds, mais bon, des fois, il faut tout un cheminement pour le comprendre. Bon, tout ça pour vous dire que une fois avoir mangé uniquement l'extrémité du plantain, je me suis rendu compte qu'il restait une forme dans le plantain, qui était dans le centre du plantain justement, et qui était cette forme-là. En fait, si vous regardez le plantain, eh bien, il y a l'étoile de Compostelle qui est dessus, il y a la coquille Saint-Jacques, voilà, la coquille végétale, donc le plantain, c'est la plante du chemin, mais encore plus, la plante du chemin de Compostelle. Bon, ça voilà, c'est la petite histoire avec le plantain.
Un petit mot sur Nicolas Descaves que vous venez d'entendre et que nous avons enregistré le 2 août dernier lors du festival Nature en Livre organisé par l'association Hostellerie de la Tour. Nicolas Descaves est né en 1994, il est orphelin de père à l'âge de 16 ans. Il s'est lancé dans le bûcheronnage et il a obtenu le brevet professionnel de responsable de chantier forestier. Mais finalement, tout cela n'intéresse pas particulièrement, en tout cas du moins dans la gestion. Et il va partir à l'aventure pour une itinérance de 8 mois en Bosnie. Et puis il va rencontrer en 2018 Gérard Dussert, qui est un botaniste reconnu qui va le missionner pour photographier des plantes rares. afin d'illustrer ses livres d'identification floristique. C'est un travail formateur qui fait découvrir au premier des lieux avec un œil très différent de celui du randonneur. Et puis 10 ans après le décès de son père, la mère de Nicolas Descaves disparaît à son tour et Nicolas Descaves se lance sur les chemins de Compostelle pour se retrouver et se détoxifier. Nous allons d'ailleurs tout de suite l'entendre. Il lit l'incipit de son ouvrage « Récit témoignage » paru aux éditions Transboréales et qui a pour titre « Le chemin des plantes ». Nicolas Descaves.
Samedi 22 avril 2023. Jouis les oiseaux. Une balade avec deux ailes. Un arc-en-ciel dans les oreilles. Un jour peut-être serai-je moins daltonien du tympan et pourrai-je enfin peindre, croquer, le message des oiseaux. J'aimerais, à l'oreille, comprendre qui parle et ce qu'il raconte. Qu'il y a un danger, que c'est le moment de faire son nid, que c'est juste bon de chanter au soleil. Quel bonheur m'amène la présence d'un jet ou celle d'un pivert, un groupe de grues en migration ou une bergeronnette des ruisseaux faisant rebondir l'air avec sa queue. Je crois qu'il est temps d'aller siffler sur les chemins du printemps. C'est une histoire de langue et de plantes que je me propose de vivre et partager. La langue des plantes, qui passe directement par les papilles. Elles y marquent des messages, indiquent ô combien la vie est amère ou douce. Elles passent par les yeux aussi, et la vie commence justement à être belle et colorée. Mais tous les arbres ne sont pas d'accord, et certains restent certains que l'hiver n'est pas fini, que la vie n'est pas toute verte. Par le nez, la menthe me signale gentiment que je lui marche dessus, et je sens aussi que je ne suis pas encore dans les garrigues méditerranéennes, mais dans les prairies du Brionnais. Par la peau, la ronce m'indique que je m'éloigne du chemin, pendant que l'ortie me donne une leçon de respect et d'humilité, en me rappelant, par la voix du goût, à quel point elle est riche. Pendant ce temps, les hormones parlent toutes seules, et les pensées aussi. Les oreilles, enfin, écoutent aussi la langue des plantes. Les premières feuilles des arbustes me soufflent les paroles du vent d'avril, et en collant l'oreille contre les troncs, on entend parfois le murmure de la sève brute qui monte dans les charmes et les bouleaux. J'entends aussi toujours les prairies et les forêts siffler en chœur par le bec et la plume qu'elles font vivre. La langue des plantes me lèche les babines et c'est avec le ventre que je l'écoute qu'elle m'appelle à partir avec appétit sur les chemins, y cueillir la vie avec la langue, y chanter la plante des pieds, du ventre et de l'esprit. Par la voix des mains, VOX, je vais essayer de compter le chemin des plantes de Compostelle tel qu'il m'apparaît et tel qu'il module ma voix, VOIE.
Je vous propose d'entendre encore Nicolas Descaves, cette fois-ci revenir sur la légende de la rose du Puy-en-Velay.
Mais si nous sommes arrêtés là, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a la rose. Alors, je vais pas vous faire toute la légende de la rose du Puy-en-Velay. En fait, dans le livre, vous l'apprendrez, ou si vous allez au Puy-en-Velay, vous l'apprendrez si vous posez des questions aux personnes dans la cathédrale. Vous allez apprendre qu'il voilà, y a toute une légende de la construction de la première chapelle qui deviendra plus tard la cathédrale, et de toute la ville autour, à un moment où il n'y avait encore rien. Et donc, dans cette légende, on apprend que finalement, les premières pierres de la première chapelle ont été posées sur des roses, qui marquaient l'emplacement d'un lieu saint. Alors moi, cette petite histoire, finalement, elle est revenue dans la tête souvent, et puis je me suis dit, tiens, la rose nous montre le chemin du lieu saint oublié. Parfois, c'est juste un endroit justement un peu plus sauvage, un peu plus pur peut-être. Et puis parfois, c'est autre chose. Parfois, simplement, d'un côté, je dois choisir entre deux chemins. Si d'un côté, il y a une rose, hop, pourquoi pas la suivre. Et le fait de m'accrocher à cette petite phrase, finalement, ça change toute une vie. La rose Sainte-Croix, c'est encore une autre manière que la plante va venir justement. Les plantes, elles ont plein de manières de s'insinuer sur notre chemin. Voilà, on marche dessus, elles nous font de l'ombre, etc. Mais aussi dans nos vies. Et puis aussi dans les mots. Par exemple, je ne veux pas vous lire le passage avec la rose parce que ce serait trop long. Bon, la rose est rose. Là, on va plutôt parler du rouge. Quand vous continuez d'avancer, vers Espalion, par exemple, là, la terre est énormément rouge. Il y a plusieurs endroits de France comme ça où la terre est très rouge. Et donc, du coup, les pierres, les cathédrales, tout ça, etc., sont rouges. La cathédrale d'Esparan, Lyon, est rouge. Juste un petit passage, après on se remet en mouvement. Dans les prairies, le coquelicot est en fleur. Il colore de rouge mes yeux. Se diffuse en moi un peu de son opium doux. Ici, le spirituel est de rouge vêtu. Rouge les pierres et la terre. Rouge les chapelles, les cathédrales sous les coups du soleil. Sur le tympan de la cathédrale d'Espalion, un personnage a perdu la tête. Trop d'opium ? Trop de soleil ? Entrez dans la fraîcheur du lieu saint pour retrouver son esprit. Calmer les braises avant qu'elles n'attaquent le corps. Et faire la paix en nous, grâce à la fraîcheur des rouges fraises, enfin réapparues, les premières depuis l'année dernière. Je crois à la réincarnation des saisons, des saintetés végétales. Donc là, voilà, les plantes, parfois, elles viennent juste danser comme ça avec les mots. Et puis finalement, une simple fraise devient le symbole de la réincarnation. La rose symbolise plusieurs choses. Donc Marie, déjà, la rose, c'est Marie. Et puis, c'est aussi l'amour, finalement. Donc justement, sur cet amour-là, je vous propose un petit passage. Les plantes peuvent nous amener de l'amour, et pas forcément celle qu'on pense. Ou alors, les mots peuvent venir s'insinuer quand on parle d'une rencontre amoureuse sur le chemin. Aujourd'hui, je m'amuse à caresser les roses, les ronces, les chardons-marie et les centaurées du solstice. Là, on est en Espagne, pour vous dire, pardon. Tout ce qui présente des pics, des crocs et des épines. Les roses ne me retiennent pas, je suis sur le bon chemin. Les grands pivots des chardons ouvrent à de plus profondes réflexions. Ceux de Marie sont doux avec moi, je peux faire confiance à l'amour. Je peux surtout ranger les peurs qui restent, car les pics sont une illusion. Ce qui est une défense passive n'est pas une attaque. Je sais que c'est une journée sous le signe de la guimauve, car elle m'a embrassé l'œil au passage. Et je danse dans les galactites tomentosomes, une plante à épines aussi. J'ai envie de contact avec ces plantes accrochantes et piquantes. Et si elles ne me retiennent pas complètement, elles amortissent mon pas et permettent une rencontre, celle de Bérénice. Maintenant, je vais vous lire le passage de l'acte d'amour. Cartamus mitissimus, tragopogon crocifolius, cistus albidus, quercus cocifera, flomis lignitis, blackstonia perfoliata, hypericum perforatum. Bérénice est une fleur dont les arômes m'enchantent, me font vibrer à l'unisson, guidant mes bras jusqu'à la cueillir pour poser mes pupilles dans les siennes. Et comme elle me cueille aussi, c'est en lévitant que nous nous caressons, en battant des paupières que nous parlons le langage des papillons. Petite fée, nous nous échangeons nos boutons, goûtons la fleur de l'autre. Je suis sensible aux hormones. Un petit peu avant, je voulais être plus sensible aux hormones que les plantes lâchaient de partout. Finalement, j'ai été sensible aux hormones humaines. C'est le moment de l'accordage de l'orgue à Viana. En découle de drôles de vibrations dans l'église. Les ultrabasses résonnent avec notre cœur et nos reins, ces tuyaux, qui sont aussi des cordes sensibles. Après un grand concert d'amour, on a besoin de vérifier comment chacune d'elles sonne, si l'on est, en effet, toujours bien accordé et que nulle partie n'est endommagée. Je me souviens d'un événement il y a quelques années de cela. Dans ma voiture, je m'étais réveillé sur le flanc d'un ravin où j'avais dû tomber. Le moteur remontait à 10 cm de mon fauteuil. C'est un frêne qui m'avait arrêté. Face à moi, il avait absorbé la violence de ma fausse route, ne me laissant que les genoux ensanglotés comme stigmates. Et là, dans cette descente de la Rioja, où je me laisse emporter, je me fais mal aux pieds, et mon bâton ne sait calmer ce courant. Je me souviens alors de la rose à nos côtés, et de toutes les plantes sous mon nez, les amis toujours là pour m'aider. Je me souviens encore une fois de la caresse de la ronce et de l'amortie du chardon-marie, qui l'autre jour ont supposé mon rythme auprès de celui de Bérénice. Alors comme Bérénice n'est plus là, pour adoucir mon pas, je passe la main sur la tête du nonoporde à feuilles d'acanthe, le chardon aux ânes, qui passe à ma hauteur. Au contact de ses cheveux rigides, mon corps s'adapte immédiatement. Il ressent l'ancrage profond de la plante ainsi que sa souplesse. Ma marche reprend alors la danse des reliefs, et dès qu'une descente en goudron me transforme en voiture sans frein à main, je la pose sur les restes de la nature qui la borde. Quand les pieds ne la touchent plus, c'est par la main sur la plante qu'on peut ressentir la terre. Et qui sait, si je deviens plus sensible olfactivement aux arômes et autres messages invisibles, peut-être me suffira-t-il de cela pour rester lié à la terre et l'être humain que je suis, tout en lévitant comme l'abeille. Bérénice représente donc ses roses, ses ronces, ses plantes à crocs et à épines qui sont d'une douceur incroyable. Avec ces plantes, devient évident qu'il ne faut pas y aller comme un bourrin, car on se retrouverait bien vite bloqué. Presque contre-intuitivement, c'est au contact hypersensible qu'un mouvement commun peut émerger et des voies s'ouvrir. Plus de crochets, juste des points de contact indiquant dans quel sens valser. Ce ne sont pas des êtres violents, ce sont des meneurs de danse. Il faut être à l'écoute pour aller sur leur piste, sinon on ne marche pas. Bérénice n'a pas d'épines à première vue et ne mène pas plus la danse que moi. Seulement, si le contact est doux et charmant, il me rappelle qu'il ne faut pas trop que je m'entortille pour ne pas me faire de mal. Que je sois obligé de me lacérer le corps et de lui arracher des parties pour simplement être. Quand bien même, je vis avec amour et pousse avec le cœur. Aimer, s'accrocher. Le lieu saint oublié et l'amour qui est en nous.
Passionné de botanique à l'instant, c'était Nicolas Descaves qui habite en Saône-et-Loire et qui a fait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle en se nourrissant des plantes trouvées en chemin. Il le raconte dans un très beau texte paru aux éditions Transboréales et qui a pour titre « Le chemin des plantes ». Juste après la pause musicale que nous allons vous proposer, nous continuerons à vous faire revivre cette déambulation littéraire qui a eu lieu le 2 août dernier à Vézelay dans le cadre du festival Nature en Livre, porté par l'association Hostellerie de la Tour et par sa fondatrice et animatrice Gertrude Dodard. Nous entendrons le libraire de Vézelay et adjoint de Vézelay, Laurent Equet. Nous reviendrons sur les écrivains, romanciers, essayistes qui reposent au cimetière de Vézelay. C'est Wagon Livre sur Radion, nous sommes ensemble jusqu'à midi. Tout de suite, je vous propose Herbe folle, interprétée par Georges Moustaki.
Herbe folle, pas si folle que
ça. Herbe folle, pas si folle que ça.
Tu t'envoles et m'emportes avec
toi. Tu t'envoles et m'emportes avec toi.
Dans tes voyages, dans tes mirages, tant pis si je ne reviens pas. Herbe folle, pas si folle que ça.
Herbe folle, si folle que ça.
Tu t'envoles et m'emportes avec toi.
Tu t'envoles et m'emportes avec toi.
Tu te parfumes, tu te consumes, et je me brûle un peu les doigts. Herbe folle, pas si folle que
ça. Herbe folle, pas si folle que ça.
Tu t'envoles et m'emporte avec toi.
Tu t'envoles et m'emporte avec toi.
Dans tes promesses, dans tes ivresses, et tu me laisses tant de joie. Herbe folle, pas si folle que ça.
Herbe folle, pas si folle que ça.
Tu t'envoles et m'emporte avec toi.
Tu t'envoles.
Dans tes voyages, dans tes mirages, tant mieux si je n'en reviens pas. Herbe folle, pas si folle que ça.
Herbe folle, pas si folle que ça.
Retour à travers les enregistrements de la déambulation littéraire à Vézelay qui a eu lieu le 2 août dernier dans le cadre du festival Nature en Livre. Des enregistrements dus notamment à la participation et à la collaboration de Didier Carco que je salue et que je remercie. Nous allons entendre le libraire de Vézelay, Laurent Equet, qui est aussi adjoint à la mairie de Vézelay. Laurent Equet qui a connu l'écrivain Jules Roy qui est venu s'installer à la fin des années 70 à Vézelay, non loin de la basilique Sainte-Marie-Madeleine. Je vous propose tout de suite d'entendre Laurent Equet lire un extrait de texte de Jules Roy.
Aujourd'hui, on va à Vézelay comme vers une étoile. Pour cela, il a fallu que, déjà singulier par sa situation géographique, une sorte de promontoire vers le ciel, Vézelay reçoive quelque chose de majeur, et que le culte à la divinité qui en prit possession est pour temple une merveille. Cela n'a pas suffi. Il a fallu que des rois viennent là plier le genou devant une femme, symbole de l'amour, et que cette femme fût le premier témoin de la résurrection du Christ. Il a fallu que d'immenses mouvements de foi voisin du fanatisme, trouve le signe et le mot qui les lance aveuglément vers l'Orient, délivrer le tombeau du Christ des mains des infidèles. Il a fallu encore qu'abbayes, évêques, comtes de Nevers et d'Autun se disputent et se déchirent, que des papes viennent arbitrer des conflits et authentifier les reliques. Il a fallu qu'une aspiration incontrôlable précipite les masses vers les restes de cette femme. Et quelle femme ! Une des plus belles amoureuses de l'histoire de l'humanité, à qui les moines donneront une apparence sévère. Il a fallu encore des haines entre confessions de même foi, des jalousies mortelles. Il a fallu que le sang coule dans les rues de Vézelay et qu'on s'y tue, qu'on prenne et reprenne la ville au moment des guerres de religion, qu'on s'y massacre, qu'on y rêve d'une république. Il a fallu enfin que l'abbatiale soit sauvée de la destruction en devenant, au temps de la Révolution, le temple de la raison, qu'elle tombe en ruine, ou presque, et qu'au XIXe siècle, un écrivain célèbre et un architecte de génie la sauve de la nuit. Passons. Voilà Vézelay ressuscité, voici Lazare sortant du tombeau, voici les foules séduites de nouveau par ce qui ne peut être que la magie du lieu. Voici qu'une étoile brille sur Vézelay. Jules Roy écrit ceci dans le Guide sentimental, un petit texte qu'il avait effacé comme ça, qu'il l'a présenté d'ailleurs. Un jour, au cours d'un de nos rendez-vous, moi je suis arrivé ici à Vézelay, je m'y suis installé, j'y étais venu en pèlerin assidu quelques années auparavant, mais je m'y suis installé vraiment au mois de mars 1991, et comme je le raconte dans la postface de ce petit guide, j'ai été convoqué par Jules Roy, téléphoniquement, « Allô, ici c'est Jules Roy, il faut venir me photographier, moi et Rostropovitch. » Ce n'était pas Rostropovitch et moi, hein, c'était moi et Rostropovitch. Mislav Rostropovitch était présent à Vézelay, il enregistrait les suites pour violoncelle seule de Bach dans la basilique de Vézelay, grâce à l'entremise du brillant et de l'extraordinaire cuisinier que fut Marc Menot, avec l'Espérance, qui avait donc attiré le luthier Étienne Vatelot et un des plus extraordinaires violoncellistes du XXe siècle, Mislav Rostropovitch, qui en découvrant la basilique a décrété comme une évidence que c'est là qu'il enregistrerait les suites pour violoncelle seule de Bach. Donc je débarque en plein enregistrement et je reprenais le local commercial où se trouve la librairie qui était un atelier photographique. Et donc Jules Roy, en me téléphonant, pensait avoir le photographe. Donc je me suis fait passer pour le photographe et je suis venu faire des photos de Jules Roy. C'est comme ça que ça a commencé. Et je ne vais pas vous raconter la suite, mais une certaine amitié est née entre nous, malgré la très grande différence d'âge, mais l'âge n'est pour rien dans ce genre de choses, finalement. J'ai beaucoup de respect pour le personnage, hein, qui, par sa stature aussi bien physique qu'intellectuelle. Et voilà. Et un jour, il me dit, tenez, j'ai écrit ce texte, l'Office de tourisme ne s'en est pas occupé, ils n'ont rien fait pour le publier, si vous voulez le publier, faites-en votre affaire. Et donc je l'ai publié et c'est comme ça qu'a commencé ma petite carrière d'éditeur. La plus petite maison d'édition de France, selon un article paru à l'époque dans le journal Le Monde, dont j'étais pas peu fier. Voilà, en quelques mots, Jules Roy a continué à échanger, nous avons continué à échanger, à venir régulièrement dans son jardin. Et un jour, il a fait cette chose qu'il faisait quotidiennement pour aller l'offrir à Marie-Madeleine dans l'abbatiale, pour laquelle il avait une vénération extrêmement forte. J'étais venu avec mon épouse ce jour-là et avec un geste très galant, Jules Roy a dit « Mais aujourd'hui, je vais offrir la rose à votre épouse et non pas à Marie-Madeleine. » Ça l'a beaucoup marqué d'ailleurs, hein, d'être prise un petit peu pour Marie-Madeleine à l'époque. Voilà. Et le cadeau de cette rose était un geste tout à fait courtois. Et Jules Roy était un homme qui était connu pour ses emportements, pour ses combats, pour sa volonté de faire que Vézelay reste un lieu de l'esprit et ne devienne pas un supermarché touristique ou un parc d'attractions médiévaux, enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein, comme on en fait tant en France. Et comme Vézelay a failli le devenir à la toute fin des années 80 et du début des années 90, lorsqu'un cabinet diligenté par la région de Bourgogne-Franche-Comté a entrepris de mener une étude financée à grand renfort de francs à l'époque pour faire de Vézelay un village fermé avec un portique à l'entrée, une entrée payante des commerçants déguisés en artisans du Moyen-Âge, enfin faire une espèce de parc d'attractions et un petit train touristique, bien sûr, très médiéval le train touristique, comme chacun sait. Donc les habitants de Vézelay se sont... Alors ce qui a fait que les habitants se sont révoltés, je ne vais pas entrer dans les détails, c'est qu'à l'époque a été institué par le... Enfin, on a voulu instituer à l'époque ce qu'on appelle le droit de préemption urbain, qui permet à une collectivité de préempter lorsque quelqu'un veut mettre en vente son bien. Qui en soi est une bonne chose, parce que ça évite, ça permet à la collectivité d'assurer un peu ses arrières. Mais à l'époque, le but avoué était d'acheter des maisons pour en faire des antennes de ce parc d'attractions. Les habitants se sont révoltés, se sont organisés, ça a fait beaucoup de bruit et l'affaire a fait flop. Et le conseil régional de Bourgogne, depuis, est très prudent avant de s'engager dans Vézelay. Ça a quand même coûté une petite fortune, cette affaire, et ça a laissé pas mal de traces. Il y a eu d'autres tentatives depuis, hein, et peut-être Vézelay n'échappera-t-il pas éternellement à ces assauts répétés d'en faire un lieu du surtourisme mondial, mais jusqu'à présent, nous y avons échappé. Grosso modo, avec quelques petits détails qu'on peut regretter, mais enfin dans l'ensemble, Vézelay échappe assez largement. Il suffit de voyager ailleurs, dans les grands lieux victimes de surtourisme dans le monde et en France, pour s'en rendre compte. Et les gens qui disent que Vézelay est trop fréquenté, est surfréquenté, ne doivent pas beaucoup voyager ailleurs, à mon avis. Parce que franchement, on est très loin de cette surfréquentation. Voilà ce que je voulais vous dire très brièvement. Dans ces jardins, le département de l'Yonne, qui les a acquis avec la maison, ancien clos du couvent, ancien couvent des Ursulines, qui était relié à la chapelle qui se trouve de l'autre côté, qui a été pendant un temps de l'histoire de Vézelay un temple protestant. Car il y a eu toutes sortes de communautés religieuses à Vézelay, dont une communauté protestante. Et donc Jules Roy a acquis cette maison en 1978, dans un contexte assez conflictuel, et après avoir beaucoup tourné tout autour dans la région, où il avait acquis plusieurs manoirs et petits châteaux, sans pouvoir alors encore s'installer à Vézelay même. Et puis en 1978, la propriété a été mise en vente, et il a pu l'acquérir et en faire le lieu de sa vénération directe pour Mademoiselle Sainte-Marie-Madeleine, comme il l'appelait parfois. C'est d'ailleurs le titre d'un de ses livres, La prière à Mademoiselle Sainte-Marie-Madeleine. Donc en 2000, Jules Roy meurt, ayant pris les dispositions de son vivant pour que la maison soit achetée par le département de l'Yonne, pour que son épouse Tatiana conserve la petite maison qui est accolée de l'autre côté et puisse continuer à y habiter, ce qu'elle a fait jusqu'en 2013, et faire en sorte qu'elle ne manque de rien. Enfin, voilà, des choses tout à fait naturelles quand on en a la possibilité naturellement. Et le département de l'Yonne s'engageait à en faire une maison dédiée à des activités culturelles et essentiellement à des résidences d'écrivains, censées être choisies autour de l'œuvre de Jules Roy, de préférence.
Après cette séquence amplement consacrée aux barbares de Vézelay, à Jules Roy, dont la maison a été acquise par le conseil départemental de Lyon et qui est ouverte au public et qui organise des résidences d'écriture et des expositions, je vous propose de suivre la déambulation littéraire du festival Nature en Livre. Déambulation littéraire dans les rues de Vézelay. Après être parti de la chapelle de la Cordelle, nous nous sommes arrêtés dans les jardins de la maison Jules Roy, où effectivement Laurent Equet a évoqué quelques souvenirs autour de ce romancier, ancien journaliste, qui effectivement a quitté l'armée française pour s'adonner à l'écriture journalistique et également à la littérature. Le moment est venu cette fois-ci de s'intéresser dans le cimetière de Vézelay à celles et ceux qui reposent, notamment le philosophe d'Aquin, Maurice Clavel.
Ici, nous sommes sur la tombe d'un des écrivains vézeliens qui a laissé des souvenirs qui s'effacent peu à peu avec le temps, mais encore bien vivant néanmoins. Il habitait à Aquin et il venait rendre visite à Vézelay presque quotidiennement. Et il s'agit de l'écrivain, journaliste et philosophe Maurice Clavel. Je précise bien Maurice, hein, parce que régulièrement on me dit « Mais où est Bernard Clavel ?» Il n'est pas à Vézelay. Donc Maurice Clavel, 1920-1979, et qui est connu pour être un écrivain rebelle. C'est lui qui, je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu la chose en direct, a quitté un plateau de télévision pendant une émission en direct. Il avait été censuré et avait claqué la porte en disant « Messieurs les censeurs, bonsoir ». Voilà. Et il tonitruait volontiers, parmi les formules qui l'ont rendu célèbre, « Il y a Dieu et Dieu, nom de Dieu ». Voilà. Et ici, il a fait graver sur sa tombe cette phrase extraite de l'évangile de Luc. « Je te remercie, ô Père, d'avoir caché ces choses aux docteurs et aux sages et de les avoir révélées aux humbles et aux petits ». Voilà, ça signe un peu le personnage.
Laurent Hecquet, enregistré au cimetière de Vézelay le 2 août dernier. Et cette fois-ci, nous avançons toujours parmi les tombes du cimetière de Vézelay. Et le moment est venu de nous arrêter sur celle de l'écrivain et philosophe Georges Bataille.
Cette tombe nue, avec ce savant assemblage, car ne vous y trompez pas, il s'agit d'un assemblage qui ne doit rien au hasard. Les petites pierres qui sont posées sur la tombe sont l'œuvre d'admirateur de celui qui est inhumé ici et qui a passé ses dernières années à Vézelay, assez malade quand même, hein, et entouré auréolée d'une réputation assez sulfureuse, puisqu'on lui prête même dans des légendes qui courent encore, mais que personne ne pourra jamais vraiment confirmer. On raconte que, étant donné qu'il était bibliothécaire, avec un statut tout à fait officiel, un statut de conservateur, le curé de Vézelay lui aurait confié la clé de la basilique, pourquoi pas, ça peut s'envisager, ça s'est fait pour d'autres personnes, et qu'il aurait célébré des messes noires dans la dite basilique. Ce dont je doute très fortement, mais qu'importe. On raconte aussi, et là c'est sans doute plus vraisemblable, qu'à la fin de sa vie, il aurait mis en scène sa propre mort en faisant dresser, vous savez ce qu'on dressait autrefois devant les maisons lorsqu'il y avait un décès, on dressait une grande tenture noire, et lui-même habillé en croque-mort sur le seuil de la maison, distribuait des faire-part pour ses funérailles. Voilà. La scène est-elle authentique? En tout cas, elle fait partie de la légende du personnage qui a été longtemps hanté par l'idée de la mort, par un certain érotisme également, hein, qui le préoccupait beaucoup, il a beaucoup écrit sur le sujet, et par une certaine violence associée à cette mort et à cet érotisme dont son œuvre est fortement empreinte. Voilà sa tombe, nue, avec simplement une inscription sur le devant, aucun signe religieux. C'était un personnage qui était attiré par la mystique vézelienne, mais qui n'adhérait pas à une religion en particulier.
Merci à Laurent Hecquet, libraire et adjoint à la mairie de Vézelay. Laurent Hecquet pour ses explications au milieu du cimetière de Vézelay sur les tombes des grandes figures littéraires qui reposent derrière la basilique dans le cimetière de Vézelay. Je ne vous cache pas que j'avais été sollicité par Gertrude Donard de l'association Hostellerie de la Tour pour lire un certain nombre de textes. Eh bien, vous allez m'entendre lire au cimetière de Vézelay un texte de Georges Bataille. Quand, venant de Paris, nous entrâmes dans la maison, des voiles de crêpe noire séchaient aux arbres du jardin ensoleillé. Ce lugubre présage m'a serré le cœur. Le premier jour où nous avons couché dans la maison, la lumière faisait défaut. À la nuit tombante, la tempête du vent atteignit une violence inouïe. Je trouvais dans l'obscurité une bougie de Noël. Je soufflai la bougie, la lumière revint enfin. Ces petites difficultés me réconfortent et même me séduisent. Le calme dans la tempête est le sens le plus fort de ma vie. Les déchirements du dehors m'apaisent. Et alors ensuite, toute une série de petites phrases extraites comme ça, isolées, et qui sont livrées à votre émotion et à votre réflexion. Ce livre est écrit dans la nuit, il est la nuit même. Je ne veux plus vivre que dans le tremblement. Le coupable, c'est moi, mais c'est toi aussi, si tu lis. déambulation littéraire à Vézelay. C'était le 2 août dernier dans le cadre du festival Nature en Livre. Nous allons entendre à nouveau le libraire de Vézelay, Laurent Equet, revenir à travers la lecture d'un texte de Jules Roy sur la grande histoire d'amour entre le poète Paul Claudel et Rosalia. Laurent Equet, enregistré au cimetière de Vézelay.
Ce n'est pas le ciel et ses nuages de beau temps qui font luire les toits et les tours de Vézelay. C'est Vézelay qui supporte le ciel et les astres. Est-ce vrai? Est-ce faux? Qui peut dire encore pourquoi repose ici, au cimetière, une autre amoureuse qui n'avait rien de commun avec Vézelay, ni avec Marie-Madeleine, sinon qu'elle ne pouvait se passer d'homme ni d'amour? Pour qu'elle soit là, gisante, il a fallu que Paul Claudel, le plus grand poète de la chrétienté, regagnant son poste de consul à Fuchéou, la croisa en 1900, il y aura bientôt un siècle. Ceci a été écrit au début des années 1990 et publié pour la première fois, par mes soins d'ailleurs, en 1994, réédité en 2004 et très prochainement réédité au mois de septembre 2025 si tout va bien. Il la croisa sur le pont de l'Ernest Simons, qui allait en Chine. De cette Rosalia Sibor Rilska, pas encore veuve de Francis Vetch, puis de John Lindner, mais jeune et éblouissante, qui monta à bord du paquebot à l'escale de la Réunion, Claudel tomba éperdument amoureux. Sans elle, Claudel n'aurait écrit ni Partage de midi, ni Le soulier de satin. Sans elle n'existerait ni le personnage d'Isée, ni celui de Donna Prouez, merveilleuse et immortelle représentation de la femme dans la littérature et au théâtre. C'est cette Rosalia qui, avec Madeleine, transforme le rocher de Vézelay en terre de feu. Est-ce vrai? Est-ce faux? Chercher comment de Chine une âme sublime et folle peut s'échouer chez nous, à Vézelay, comme le soleil après avoir incendié la moitié du globe? Claudel avait 32 ans quand il la croisa, et parce que c'était un homme de désir, le miracle et le génie se débrouillent pour que cette Isée soit ici, parmi nous, avec pour seule explication une phrase de Claudel sur sa tombe. « Seule la rose est assez fragile pour exprimer l'éternité. » C'est un haïku, encore une rose, oui. C'est un haïku qui est extrait des 100 phrases pour éventail de Claudel. Cette réalité entre dans la légende. Oui, mais cette Rosalia n'est pas sur les autels, seulement dans la terre, pas très loin de mon ami le poète Max-Paul Fouchet, ici même, derrière le buisson, sous le buisson. La tombe, on ne voit plus la tombe tellement il y a de végétation autour. Et c'était un grand ami de Jules Roy, ni du sulfureux Georges Bataille que nous venons de croiser. Sabbat d'amour, en même temps que matin de résurrection, tel est Vézelay. Il manque Henri Petit, autre ami de Jules Roy, un autre amoureux fou de Vézelay, lieu éternel battu de vent. À mon tour, j'y serai. Un peu plus bas, effectivement, Jules Roy, prolongeant le parcours, en quelque sorte, de Claudel, de sa maîtresse et de la fille née de cette union, qui n'a jamais porté le nom de Claudel, mais pour laquelle Claudel a pris toutes les dispositions nécessaires, la confiant en 1942 à la famille Romain Roland, qui vivait dans la rue principale de Vézelay depuis 1938-1939. Romain Roland étant venu en France pour participer à la résistance contre l'occupant nazi, après avoir été longtemps exilé en Suisse. Voilà donc Rosalia et Louise, qui est décédée, je ne sais pas s'il y a la date sur la tombe, mais son décès est assez récent, hein, dans les années 90, si je ne me trompe pas, et qui habitait une petite maison située dans le cœur de Vézelay, au pied du clocher de l'église Saint-Pierre. Un peu plus bas, donc, vous verrez, après avoir franchi la tombe végétalisée de Max-Paul Fouchet, dont la fille vit toujours à Vézelay, vous découvrirez la tombe de Jules Roy, de son épouse Tatiana, et à côté, celle de Yvan et Christiane Zervos, deux collectionneurs d'art, agents et amis de Pablo Picasso.
Laurent Equet, libraire à Vézelay, qui participait à la déambulation littéraire organisée par l'association Hostellerie de la Tour dans le cadre du festival Nature en Livre 5e édition. Je vous propose cette fois-ci un extrait d'un texte de Max-Paul Fouché, lu par mes soins, enregistré le 2 août dernier devant la tombe de Max-Paul Fouché. C'est Didier Carco qui tenait le micro. C'est un extrait de La Relevée des Herbes. Certes, nous n'avons rien dit des légumes, des crèmes, des sauces, des fruits, des bonbons. Et nous avons passé sous silence les vins, tous nobles et des meilleurs millésimes, sortis d'une cave parfaite, orgueil des miens. Je n'aurai garde pourtant d'oublier cet alcool dont l'odeur de pomme évoquait le rôle capital de ce fruit dans l'histoire humaine, depuis la révolte contre toute censure qu'il inspira à Adam et Ève, jusqu'au peintre Cézanne, en passant par l'illustre savant qui, la voyant tomber de l'arbre, en déduisit d'intéressantes théories sur l'attraction terrestre et la gravitation universelle. Cet esprit, servi entre les plats et bu d'une seule lampée, creusait un trou dans le magma alimentaire de l'estomac, fouettait celui-ci qui, bon cheval, reprenait son galop et faisait place pour de nouveaux aliments. L'appétit des convives se renouvelait alors. Tout sentiment de lourdeur ou de trop-plein s'évanouissait. Le progrès était manifeste depuis l'époque où les anciens Romains, désireux de vider leur estomac afin de le remplir de neuf, enfonçaient un index dans leur gorge et provoquaient ainsi des vomissements dont les matières ne couvraient pas que le sol du vomitorium, vite impraticable malgré le zèle des esclaves à le nettoyer. Si grande soit-elle, les civilisations pêchent toujours en quelque endroit et pour cette raison devraient témoigner de modestie à l'égard des peuples que leurs armes supérieures soumettent, alors qu'elles ignorent la vertu d'un modeste remède, et plutôt que digérer, s'obstinent, par d'affreuses vidanges, à salir les marbres. Après les derniers alcools, nos festins s'achevaient dans une sorte de plénitude physique et mentale, comme il arrive lorsqu'un désir est comblé. Sur les nappes, des tâches auraient permis de reconstituer la succession des plats. Dans cette province, la coutume était de rester à table même après le café et les liqueurs, car passer au salon paraissait une coutume barbare, propre à dissiper l'heureux climat dans lequel on baignait. Les silences devenaient plus fréquents. Chacun attendait d'un autre qu'il se levât, pris congé. La haute horloge paysanne, oubliée de tous jusque-là, soudain ressuscitait et sévère, tel un moine prêchant la repentance, son bois sombre suggérant quelques bures sous les voûtes d'un cloître et le rappel de l'imminence de la mort, sonnait lentement les coups espacés invitant à la méditation la sixième heure du jour, l'arrivée de l'ombre. « Déjà !» s'écriait l'un des convives. À quelle heure le déjeuner a-t-il commencé ? Après les apéritifs, il était 1 heure. Nous sommes donc à table depuis 5 heures. 5 heures comme d'habitude. Ah, le temps passe, concluait une dame. Pour nous, les jeunes, il allait moins vite. Il s'asseyait, écoutait l'interminable discussion sur les mérites des vins de Bourgogne et de Bordeaux. La cuisine veut du temps, disaient les dames. Il était donc naturel que le temps voulût de la cuisine et qu'il oubliât, dans une auberge accueillante, de poursuivre sa route. Voyageur, comme tous les voyageurs, il demandait une étape. La trouvant, il s'arrêtait, déléguant ses pouvoirs à l'espace puisque tous deux, d'après les meilleurs esprits, ne font qu'un. Maintenant, il repartait d'un bon pied mais sans presser le pas. Ce n'était pas la peine, il arrivait toujours à ses fins. Et comme un facteur ses lettres, il allait distribuer ses heures. Notre wagon-livre qui rendait compte de la déambulation littéraire qui a eu lieu à Vézelay le 2 août dernier, organisée dans le cadre du festival Nature en Livre, se termine. Je remercie toutes les personnes qui ont accepté d'être enregistrées, Nicolas Descaves et le libraire Laurent Equet. Émission que vous retrouvez en podcast sur yannickpetit.fr. La semaine prochaine, samedi 20 septembre, nous vous ferons entendre un membre de l'Académie française qui a participé à cette déambulation littéraire organisée à Vézelay par l'association Hostellerie de la Tour dans le cadre du festival Nature en Livre organisé par Gertrude Dodard. Nous entendrons l'académicien Michel Zinc, grand médiéviste, nous apporter ses lumières sur la sculpture du narthex, mais aussi sur les piliers de la basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay. Je remercie Didier Carco d'avoir apporté son aide technique pour l'enregistrement des séquences que vous avez pu, dans leur quasi-totalité, entendre aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, à vous souhaiter un excellent congé de fin de semaine et rendez-vous samedi prochain, 20 septembre, toujours à 11h sur Radio dans Wagon Livre. Au revoir et à la semaine prochaine.